poulet, marché de gens, et si l'on s'immergeait dans Barbès avec le Gavroche de la Goutte d'Or.
Chantal Laureau.
Sophia Aouine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes reporter et documentariste radio. Vous avez travaillé dans les années 2000 pour l'émission de RFI, Reine d'Afrique. Et l'on est ravis de vous recevoir pour parler de votre premier roman, Rhapsodie des oubliés, paru aux éditions de La Martinière. Ma rue raconte l'histoire du monde avec une odeur de poubelle. Elle s'appelle Rue Léon, un nom de bon français avec que des métèques et des visages bruns dedans. C'est la première phrase de votre livre et elle donne le ton de ce roman d'apprentissage, plein de verve, drôle et terrible à la fois. Le narrateur Abad habite cette fameuse rue Léon qu'il décrit avec ses mots bien à lui. C'est un adolescent de 13 ans dont les rêves et les premiers émois vont se fracasser sur la dure réalité de Barbès. Alors Barbès, c'est ce quartier du 18e arrondissement de Paris, célèbre pour ses magasins Tati, un monde à part où cohabitent, survivent et parfois s'affrontent des exilés venus de partout. C'est là qu'ont atterri les parents d'Abad après avoir fui le Liban, déchiré par la guerre. Une planète de martiens, écrivez-vous, un refuge déclopé de cassos, d'âmes fragiles, de ceux qui ont réussi à dépasser Lampedusa. Vous aviez envie d'être la voix de ces oubliés, de ces laissés pour compte. C'est pour cela que vous avez décidé de situer votre premier roman à Barbès.
J'ai décidé de situer ce premier roman à Barbès parce que le personnage d'Abad, qui est un syro-libanais, un jeune de 13 ans, c'est une sorte d'incarnation du personnage des 400 coups de François Truffaut qui s'appelle Antoine Doinel. Je précise bien dans les 400 coups de Truffaut. Moi, c'est un film qui a changé ma vie. En tant que femme à l'enfance un petit peu cabossée et contrariée, il fallait à un moment dans mon apprentissage de la vie et dans ma résilience, parce que moi, je dis souvent que j'ai été sauvée des monstres d'une enfance par la culture. Et le cinéma, la littérature ont joué, et le français, la langue française, ont joué un rôle d'élévation. Et c'est dans ce personnage-là d'Antoine Doinel, dans ma découverte du film de Truffaut à 17 ans, que je me suis rendu compte que certains personnages de fiction pouvaient incarner la voix de l'enfance cabossée. Alors Abad, dans le roman Rhapsodie des oubliés, c'est par sa voix qu'on parle de toutes les personnes dont vous venez de parler, qui composent ce que j'appelle la planète Barbès. Comme il y a une planète Marseille, Massilia, dans le sud de la France, Barbès est un petit peu la même chose, et les oubliés de mon roman ne sont pas uniquement des personnes en état de souffrance, mais j'ai voulu raconter une sorte d'odyssée et de rhapsodie à travers la voix de cet enfant pour raconter ce qu'est le Paris d'aujourd'hui, un Paris qui ressemble d'ailleurs à celui d'Émile Zola dans l'Assommoir, parce qu'il s'avère que la rue Léon, c'est la rue dans laquelle Émile Zola campait déjà l'Assommoir au 19e siècle.
Alors ce n'est pas évident de raconter un quartier comme Barbès sans tomber dans les clichés. Il fallait connaître le quartier de l'intérieur pour en restituer tous les paradoxes, c'est-à-dire pauvre mais attachant, sordide mais plein de vie et royaume des trafics en tout genre.
C'est ça, jamais misérabiliste non plus. C'est un livre à hauteur de trottoir, comme je dis, à hauteur de bitume, à hauteur d'enfance, parce que la dernière phrase de l'épilogue, sans déflorer le livre, c'est celle-là, et j'y tiens parce que c'est l'ADN de mon livre. Ce qui nous lie, ce sont les enfants que nous avons été. Donc c'est un roman sur le Paris d'aujourd'hui, sur une planète complètement explosée, sur un quartier qui est celui du nord-ouest parisien, dans lequel il y a le plus grand écart entre le revenu dans les foyers. Je dis souvent qu'il y a 13 stations de métro sur la ligne 12, entre la colline du Crac à Porte-de-la-Chapelle et l'Assemblée nationale, ce qui montre à quel point le Paris d'aujourd'hui est une sorte de ville, j'allais dire, limite du tiers-monde. Il y a quelque chose de l'ordre du quart-monde dans ces quartiers-là. Et en même temps, mon idée, c'était pas uniquement de raconter la souffrance ou les écueils de la politique de la ville, ou les écueils, on va dire, de la société de la France d'aujourd'hui, mais c'était de raconter la manière dont, à travers l'histoire, à travers la mémoire, à travers les enfances de tous mes personnages, ça compose les petites histoire de France dans la grande histoire de France.
Alors pourquoi avoir choisi d'écrire à la première personne en vous glissant dans la peau d'Abad, cet ado ou ce pré-ado de 13 ans ?
Parce que j'ai pas pu faire autrement. C'est-à-dire que moi, je viens, comme vous le précisiez tout à l'heure, je viens d'une histoire d'enfance assez fracassée. cassée. Je viens d'une culture du Sud. Mes parents sont originaires d'Afrique du Nord, d'Algérie et plus précisément Kabyle. Et en fait, moi, je suis née dans les années 70 dans une société patriarcale où le fait de naître fille, c'était comme si j'étais née sous le sceau de l'infamie. Et moi, mon père, qui était ce qu'il était, voulait un garçon. Et le jour où je suis née, on m'a raconté, parce que le roman familial dont je suis détentrice m'a été d'abord raconté par d'autres. On m'a dit, le jour où tu es née, ton père s'est enfermé dans le noir et il a pleuré parce que tu n'étais pas un garçon. Donc j'ai toujours vécu dans cette espèce de complexe d'infériorité et de sorte de fatum familial en me disant que si j'avais pu naître garçon, peut-être j'aurais eu une autre histoire. Et en même temps, si j'avais pu naître garçon, Abad ne serait pas né. Donc il est arrivé en moi un jour de 2013, comme sont arrivés les amis qu'on garde à vie. Et je dis souvent que ce petit héros que j'ai pas choisi, hein, je le ferai jamais mourir en fait. Et j'ai mis des années, en même temps que je me suis réapproprié mon histoire familiale à travers une recherche d'archives, j'ai mis des années à écrire des personnages de femmes. Et je pense que ma blessure originelle a créé ce gamin. Et c'est aussi le reflet d'un gamin qui compose toutes les lectures que j'ai réussi à m'approprier en tant qu'enfant, adolescente, en tant que femme. Alors il y a un peu d'Antoine Doinel, c'est ce que je disais tout à l'heure, et un peu de Momo, de La vie devant soi, de Romain Gary. Il y a un petit peu du Bel Oranger de Vasconcelos, il y a un petit peu des Mistons, un autre film de François Truffaut, il y a un petit peu un des personnages de L'enfance nue de Maurice Pialat, il y a un peu des Malheurs de Sophie, de la Comtesse de Ségur. Il y a plein de petits enfants, des enfants laissés, et dont ce gamin est l'incarnation dans ce livre.
Je sais très bien qu'à l'école, on apprend des tas de choses inutiles. L'algèbre, la science, ça sert à peu de gens dans la vie. Mais le français, hein? Le français, on a toujours des lettres à écrire.
Tes parents disent que tu mens tout le temps.
Non, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges.
Si tu me demandes 1000 francs, c'est que t'en espères 500, donc t'as besoin de 300. Tiens, voilà 100 balles. Tiens, voilà 500, ben. Mais en principe, c'est ta mère qui fait ça.
Et puis, je me suis aperçu que ma mère, elle m'aimait pas tellement. Elle me disputait toujours. Et puis, pour rien, des petites affaires insignifiantes. Et puis, avec ma grand-mère aussi, elle s'est disputée une fois. Et j'ai su qu'elle avait voulu me faire avorter. Et puis, si je suis née, c'était grâce à ma grand-mère.
Antoine Doinel, Jean-Pierre Léo, extrait des 400 coups de François Truffaut. Pourquoi est-ce que les 400 coups est pour vous le plus beau film sur l'enfance?
Moi, ça m'émeut toujours d'entendre ça parce que, en plus, vous avez choisi à peu près tous les extraits qui me font rire et pleurer. Je suis très émue d'entendre la voix de Doinel parce que c'est l'incarnation pour moi de l'enfance qui crie à l'amour et c'est de l'enfance à la fois cabossée et en même temps de l'enfance merveilleuse. Il y a quelque chose d'universel dans ce film que François Truffaut a réussi. Je dis souvent que c'est le plus beau film sur l'enfance. Pour moi, il y a composé à la fois son autobiographie, sa résilience, et il y a quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, on fête les 60 ans de la sortie des 400 coups. En 59, il a eu la palme à Cannes. Et je me dis souvent que mon livre sort la même année, donc il y a peut-être quelque chose du cousinage entre nos deux héros. Et le Doinel, plus tard, chez Truffaut, de baisers volés, etc., grandit pas vraiment. Et peut-être que mon héros grandira pas, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est le plus beau film sur l'enfance parce que... Une femme comme moi, à 17 ans, qui était née de l'autre côté du 18e arrondissement, dans une famille kabyle. Ouais, pour moi, ce sont les œuvres d'art universelles et ce film a ce talent-là.
Alors, on va revenir à votre héros, au héros de Rhapsodie des Oubliés, Abad. Il a un langage très cru, imagé, inventif, qui sonne vrai. Vous avez beaucoup laissé traîner vos oreilles dans les rues, les cafés de Barbès pour capter les mots, les expressions employées par les jeunes du quartier.
Ce gamin, il parle comme moi, je parle. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis...
Donc vous êtes restée très jeune.
J'espère. Mais il y a aussi en fait une double culture qui fait que moi je suis issue d'une famille d'ouvriers et en même temps j'ai eu accès aussi aux grandes œuvres classiques. Mes goûts littéraires, cinématographiques, musicaux sont aussi porteurs de ce métissage-là. Et la langue des gamins d'aujourd'hui, je la connais parce que je travaille avec eux dans un centre social. Je fais des ateliers d'éducation aux médias et j'ai jamais vraiment laissé tomber mon lien avec la jeunesse. Et la langue dont ils parlent, c'est une langue que moi j'ai parlé plus jeune puisque je vivais en Seine-Saint-Denis au début de l'adolescence. Et c'est une langue qui a évolué et c'est une langue moi, que je cherche toujours à faire revivre. Et l'enjeu du livre, c'était pas forcément de raconter, de faire un livre social, même si ça raconte sans concession, et je le dis bien, ni victimisation, le Paris d'aujourd'hui, dans ses écueils, mais c'était d'inventer une poétique. Et la langue de d'Abad, le français d'Abad, je le voyais pas autrement qu'une création à la fois contemporaine, mais pas faire du jeunisme, parce que ça vieillit toujours mal, et à la fois de prendre ce qu'il y a d'intéressant dans la langue française d'aujourd'hui, celle que les mômes s'accaparent, où il y a des mélanges de lingala, de langue arabe, d'argot gitan, d'argot du 19e siècle, et en même temps d'être aussi fidèle au Paris d'Émile Zola dans l'Assommoir, c'est-à-dire de faire un livre qui est la langue du peuple, le son du peuple et l'odeur du peuple. Donc à l'époque, ce livre n'a pas plu. Mais j'ai eu envie d'essayer de m'immerger dans la réalité de la langue d'aujourd'hui.
Sophia Aouine, vous pouvez lire un extrait de votre livre ? C'est toujours Abad qui raconte son quartier.
Alors, je n'ai pas 13 ans, j'en ai 41, mais je veux bien le lire. Ma rue a la gueule d'une ville bombardée, une gueule de décharge à ciel ouvert, une rue qui ne dort jamais, où les murs ressemblent à des visages qui pleurent, des murs qui n'ont jamais été blancs et qui semblent hurler sur toi quand tu passes devant. Je suis arrivée dans ce bordel il y a à peine 3 ans et j'ai déjà l'impression d'avoir vieilli de 10 piges rien qu'en me posant sur le banc du Square Léon, juste à regarder les gens. Les enfants ont l'air de centenaires, des yeux de vieux sur des gueules d'anges, surtout les petits noirs. On dirait qu'à force de vivre les uns sur les autres, ils ont une âme pour 5. Ce n'est pas de leur faute, je sais, c'est vrai, mais avant de vivre ici, j'en avais jamais vu. Mon nouveau pote de l'école, le fils du marabout de la mosquée Poulet, dit toujours au prof de français « Ta France, garde-la, c'est pas à nous. Tu vas te demander pourquoi un blédard comme moi, pardon, un primo-arrivant, comme dit la grosse du service social, c'est tout ça. Je te dirai juste que je suis un esquiveur. Je fais croire que je sais rien. Comme ça, ceux qui savent, savent que je sais. T'as pas compris, c'est pas grave, tu pigeras plus tard. »
C'est pour le 18e que je représente mon quartier, ma terre, je vous présente BEZBAR. Un tas de CRS, des tas sur le trottoir. C'est comme ça que ça se passe à BEZBAR. Des dealers de bédo attirent l'arigot et les trafics de bigot. Bienvenue à BEZBAR. La rue de la Goutte d'Or, l'hôpital Lariboisière. Et sûrement né là-bas, cité de BEZBAR. Y'a le marché des voleurs, ta chose qu'elle a guéla. Activez les gueulards, ça vient de BEZBAR. Dis pas qu'on exagère, y'a une info tous les 10 mètres. Comme si ça allait changer quelque chose à BEZBAR. Si tu cherches de l'herbe, par ici c'est dead. On fume du bédo, pas trop la zèbre à BEZBAR. Ailleurs je suis du père, ailleurs j'ai besoin d'aide, mais j'ai tous mes repères à BEZBAR.
Secrète connexion BEZBAR, donc Barbès en Verlan. Sophia Aouine, vous faites dire à Abad, ici c'est une rue de sauvages, les valeurs c'est fini, même les barbus de la mosquée se baisent entre eux, chacun pour soi et un seul bon Dieu pour tous. Moi je fais semblant d'y croire pour faire plaisir à maman, mais j'ai déjà vu trop de morts chez moi, je ne veux plus en parler, plus jamais. Dans ma rue, t'as pas le droit d'être un faible, les faibles, ça finit sur un trottoir comme les putes de Porte de Clichy et les crackers de Porte de la Chapelle. Sophia Aouine, Abad a 13 ans, mais il porte un regard extrêmement lucide sur ce qui l'entoure. Il a grandi trop vite à Barbès.
Abad, il a déjà grandi trop vite en arrivant à Paris, à Barbès, parce que ses parents sont dans la spirale de l'exil. Ses parents sont originaires du Liban, avec la mémoire déjà d'un pays comme le Liban, la mémoire déjà de la guerre de 75, de tous les conflits qu'ont pu avoir le Moyen-Orient. Et j'ai eu envie qu'Abad porte un regard sans concession sur la terre d'accueil dans laquelle il atterrit, parce que chez lui, son père est dans la spirale de l'exil, comme je disais tout à l'heure. L'amour qu'il trouvait chez son père dans son pays d'origine, il le trouve plus parce que son père est laminé par sa position d'exilé. Et en fait, les silences que lui renvoie son père sont à l'image de la violence et du bruit assourdissant que lui renvoie la rue. Et je pense qu'il se cherche un endroit où vivre, il se cherche une mère. Et à un moment dans le livre, il y a cette phrase qui dit « Ici, c'est la rue qui nous élève ». en fait. C'est intéressant que vous ayez passé la Secret Connection juste avant, parce que c'est un groupe qui est originaire de la Goutte d'Or. Et je trouve qu'entre la chanson d'Aristide Bruand, qui était un chansonnier du peuple au début du XXe siècle, et la Secret Connection, il y a des points communs. C'est-à-dire que c'est vraiment la création et la musique de la rue. Et dans le langage d'Abad, dans sa vérité, dans sa description du trottoir et du bitume, j'ai eu envie de garder la même véracité que pouvaient avoir des chansonniers ou des artistes de musique hip-hop comme la Secret Connection.
Il y a aussi plusieurs passages dans votre roman, donc Rhapsodie des oubliés, où vous épinglez l'emprise des islamistes, des salafistes à Barbès. Omar le Salaf qui veut faire de la rue Léon son califat, qui se prend pour le grand recteur d'Al-Azhar, qui désenvoûte à domicile les filles vierges qui n'arrivent pas à se marier, qui se donne pour mission de purifier toute la terre des mécréants. Vous l'avez constaté vous-même à Barbès, ce poids croissant des barbapapas, comme les surnomme Abad.
Vous employez le mot barbapapa. Papa, donc les islamistes radicaux dans mon livre s'appellent les barbapapa et les filles en niqab s'appellent les Batman. Donc en fait, c'est une description sans concession d'un quartier. À la fois aussi, on n'oublie pas que c'est de la fiction, c'est pas un roman de reportage, hein. C'est un réel qui est vu par le prisme de ce gamin-là, qui vient d'une autre culture et qui trouve aussi peut-être dans un rêve de trouver une terre d'accueil pour fuir une terre en guerre, qui trouve une réalité qui est quasiment peut-être parfois dans la même souche que ce qui se passe chez lui. C'est-à-dire que le radicalisme qu'on peut voir au Moyen-Orient est à l'image du radicalisme qui peut se passer dans certaines mosquées en France.
Et à un moment donné, il dit Barbès, c'est Babda.
Oui, ça lui rappelle Babda parce qu'en fait, c'est les sensations. C'est un enfant qui est un peu un enfant zèbre. C'est un enfant qui est hyper, hyper efficient, qui est hyper sensible et qui est un petit peu surdoué. Et c'est un enfant, en fait, qui s'adapte plus vite que les autres et qui est dans la sensation extrême à fleur de peau d'un môme qui veut tout manger, qui veut tout bouffer parce qu'il veut absolument s'en sortir. Et veut éviter la noyade. Et en fait, dans sa description du quartier, j'ai eu envie de parler de choses aussi qui concernent les générations actuelles. J'ai commencé mon roman en 2013. On était au début de ce qu'on appelait les problèmes de radicalisation. Quelques mois après, il y a eu les attentats de novembre, il y a eu Charlie. Et c'est vrai que on a commencé à parler de cette jeunesse qui est devenue un monstre pour beaucoup de Français, une jeunesse qui a grandi à côté de nous. Une jeunesse qui a été à la fois laissée pour compte et en même temps qui fait partie aussi de l'histoire de France. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup observé les réseaux sociaux pour voir comment se composait l'imaginaire de ces générations-là, issues de l'immigration, de quartiers populaires, souvent d'ailleurs de familles arabo-musulmanes ou en tout cas issues de l'immigration africaine. Et j'ai eu envie de savoir ce qui les faisait rêver. Et j'ai découvert en fait qu'à la fois, il y avait un rêve de consumérisme capitaliste dont Kim Kardashian et Kanye West sont les rois, et en même temps un désir d'ancrage identitaire autour de la religion musulmane qui était récupéré par la radicalisation et surtout sur Internet.
Et voilà. cette schizophrénie, entre guillemets, on la retrouve dans les mots très directs d'Abad, qui dénonce l'hypocrisie des pseudo-salafistes, la secte des moitiés camis, moitié jogging Philippe Plein pailleté, un pied dans l'ego fast et l'autre dans la hijra, moitié rap, moitié tawid, une oreille chez Caris, l'autre dans l'application Islam Pro d'Apple Store.
En fait, je n'invente rien, ça existe. Peut-être que dans la littérature ou dans une certaine évocation de génération d'aujourd'hui, c'est peut-être pas aussi cru, mais ça existe. Ça fait partie d'un certain imaginaire, d'une certaine jeunesse qu'on veut pas voir ou qui nous éclate au visage quand il y a des événements tragiques. Mais ça existe. Et puis c'est à la fois une jeunesse qui a envie d'être Tony Montana et en même temps qui a envie d'être français, mais qui comprend pas d'où elle vient, qui comprend pas où elle peut mettre ses deux pieds. Le califat de Barbès, ça reste quand même de la fiction, hein, même si il y a aussi dans plein de mosquées à Paris une tentation radicale, il n'y a pas que ça. Et moi, dans mon livre, par exemple, quand j'évoque la religion musulmane, j'évoque aussi l'exil, j'évoque aussi la cassure qu'il peut y avoir entre les pères et les fils, j'évoque aussi l'islam des pères et l'islam des fils, j'évoque aussi la manière dont la religion et la manière dont l'exil ont changé la donne, en tout cas entre les générations. Et l'intérêt de raconter ça, c'est aussi de raconter l'histoire d'un quartier. quartier, parce que Barbès, c'est une terre d'accueil depuis des décennies pour l'immigration algérienne et l'immigration maghrébine. Aujourd'hui, il y a Château Rouge, c'est la petite Afrique, c'est 80 nationalités, 300 langues, autant de religions, autant de manières de voir le christianisme, autant de manières de voir la religion musulmane, aussi la religion juive. Et puis, il y a aussi la tentation sectaire, forcément. Ce qui se passe en Afrique se passe forcément entre Château Rouge et Barbès.
Rachida Barbès. Alors, Rhapsodie des oubliés, Sophia Aouine, c'est aussi des portraits, des trajectoires, des destins. Tous les mardis à 18h, Abad a rendez-vous avec celle qu'il surnomme la dame d'ouvrir dedans et dont il dit « J'avais l'impression qu'elle savait tout de moi, même si je ne disais rien ». Qui est cette dame?
Alors, cette dame, c'est une psychanalyste qui s'appelle Madame Ethel Futterman, qui, en fait, va apprendre à Abad à arrêter les choses qui se fracassent dans sa tête et va lui donner l'usage de la parole et l'usage de l'écriture à travers sa trajectoire à elle, qui est la trajectoire d'une femme qui a grandi dans une famille juive ashkénaze, tachée par la Shoah et notamment par le destin de sa grand-mère qui a été une enfant cachée pendant la rafle du Veldiv. L'intérêt du livre, comme je vous disais, c'est de raconter ce qui nous lie parce qu'il nous délite. Et je voulais raconter une amitié élective, une amitié d'aujourd'hui entre une vieille femme juive et un petit garçon du Liban, parce que je me disais que Romain Gary l'avait déjà fait dans La vie devant soi et qu'il n'y avait rien de plus beau que de raconter le positif aussi de la mémoire de notre pays. Quoi. Il y a quelque chose dans le débat public qui est assez nauséabond et je trouvais ça intéressant dans la littérature de pouvoir montrer ce qui nous lie dans le lien mémoriel. Et cette femme, elle a le rôle d'une mère quelque part. Comme toutes les femmes du roman, c'est un garçon qui est élevé par les femmes.
Il y a une autre femme qui, elle, va jouer le rôle de deuxième grand-mère. C'est la deuxième mémé Gemayel, comme dit Abad. C'est Odette, la vieille voisine, qui va lui faire découvrir un trésor. Le trésor, c'est les livres. Et c'est la musique.
Oui, c'est les livres et la musique. C'est vrai que les oubliés sont pas uniquement les migrants ou les clodos ou les camés dans mon livre. C'est surtout aussi le petit peuple de Paris. Comme je vous l'ai dit, j'avais envie de raconter à la Zola un petit peu l'odyssée d'un quartier. Et les femmes en font partie. Les femmes, Odette, c'est une femme qui est âgée, qui vit seule chez elle et qui raconte aussi...
Qui a travaillé comme archiviste à la Maison de la Radio.
Oui, c'était aussi pour raconter mon lien à la radio. Et puis, moi, je me suis élevée grâce à la radio quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que je dis souvent que François Truffaut est mon père et la radio est ma mère. J'ai découvert la radio à 14 ans et ça a joué un rôle d'université populaire. Et j'avais envie, à travers le personnage d'Odette, de raconter la culture populaire aussi d'un siècle qui est celui du XXe siècle et la manière dont la transmission peut se faire à travers des choses simples. C'est-à-dire qu'on peut s'élever, on peut éduquer un gamin qui vient d'ailleurs à travers uniquement des choses qu'on aime. Je trouve ça toujours intéressant de pas dire que la culture, c'est être cultivé, mais c'est de dire que la culture, c'est avant tout quelque chose de l'ordre du plaisir et de l'ordre de la transmission sincère. Et la relation entre ces deux-là tient de ça.
Abad quittera Barbès forcé contraint après la bêtise de trop pour être placé dans une famille d'accueil par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. C'est l'un de vos points communs avec le jeune adolescent. Vous avez eu, on en a parlé au début de l'émission, une enfance compliquée. Vous avez été ballotté pendant 20 ans de foyer en famille d'accueil. Et votre histoire à vous est incroyable parce que vous avez réalisé avec Rhapsodie des oubliés une prédiction de Françoise Dolto. Racontez-nous.
Alors, il y a 2 ans, j'ai ouvert le dossier d'archives de mon parcours d'enfant de la DAS. Je l'ai ouvert parce que j'avais le souci de savoir si mon père, que j'ai peu vu dans ma vie, qui s'est pas du tout occupé de moi, j'avais le souci de savoir s'il y avait une phrase qu'il avait prononcée comme un héritage. Cette phrase, c'était « Quand tu étais petite, tu as rencontré Françoise Dolto, elle a dit que tu écrirais des livres. » Cette phrase était vraie. Et j'ai ouvert mon dossier de placement donc en 2017 pour vérifier ça et pour savoir si je pouvais moi aussi prétendre à l'écriture. Et quand j'ai ouvert ce dossier, effectivement, je me suis rendu compte que Françoise Dolto, dans les dernières années de sa vie, jusqu'en 88, avait pris en charge les petits enfants de la pouponnière Paul Manchon d'Antony et en avait fait ses derniers analysants. Elle a peut-être prononcé cette phrase et en tout cas, j'ai tenté de réaliser cette prophétie à travers ce livre. Et puis la suite nous dira si elle a raison ou pas, parce qu'elle a dit des livres. Donc pour l'instant...
En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Merci beaucoup, Sophia Aouin, d'avoir été notre invitée. J'invite nos auditeurs à vous lire. Rhapsodie des oubliés est paru aux éditions de La Martinière. Merci à Julien Lingue qui a réalisé cette émission et à Véronique Durand qui m'a aidée à la préparer. Comme chaque lundi, on retrouve maintenant notre rubrique Ailleurs, direction Berlin, où nous attend la directrice de l'Institut français, Dominique Crayou. Bonjour.
Bonjour.
L'Allemagne s'apprête à célébrer le 9 novembre les 30 ans de la chute du mur de Berlin, mur qui coupait la ville en deux, mur symbole du partage du monde en deux blocs, l'Est et l'Ouest. Comment l'Institut français a-t-il décidé de marquer cet anniversaire ?
Eh bien, écoutez, on a réfléchi à la façon d'apporter quelque chose à la réflexion. Et on a donc choisi la thématique 89 face au présent au travers d'une programmation très riche depuis janvier 2019, proposée aux Berlinois, aux Allemands, aux Européens et à tous ceux que ce thème intéresse en Allemagne. Une programmation qui permette de faire des liens entre il y a 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé et l'Europe dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc on a proposé des expositions, notamment des prises de témoignages de Berlinois qui s'appellent donc « À mur découvert ». On est allé donc recueillir les témoignages des Berlinois de l'Est et de l'Ouest pour savoir comment était leur vie du temps du mur et qu'est-ce que ça a représenté cet événement pour eux dans leur vie. C'est une installation multimédia avec de la vidéo, du son et des photographies. Et puis on a aussi voulu faire un pas de côté avec des chercheurs, avec des artistes, avec des personnalités de la culture français, allemand et européen, et donc avec un centre de recherche franco-allemand, le centre Marc Bloch. On a voulu s'attacher à comprendre la signification 5 jours avant la chute du mur de la grande manifestation et la première manifestation autorisée à Berlin-Est du 4 novembre 1989, au cours de laquelle les grandes figures de l'intelligentsia et du milieu artistique et politique est-allemand ont prononcé des discours pour essayer d'imaginer une autre Allemagne de l'Est réformée de l'intérieur. C'était 5 jours avant la chute du mur. 5 jours après, cette utopie 89 était balayée par le cours de l'histoire et la chute du mur qui allait ouvrir le processus d'unification des deux Allemagnes.
Est-ce qu'il y a eu un appétit à Berlin pour toutes ces manifestations autour de l'anniversaire de la chute du mur ?
Énormément. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au fur et à mesure des décennies, ça change un petit peu. C'est-à-dire que 30 ans après, on peut faire histoire, un peu plus que 10 ans après ou 20 ans après. Donc, il y a de nouveau des débats sur la façon dont le processus de sortie de communisme et d'unification s'est déroulée. Donc dans toute la ville, il y a des manifestations culturelles, il y a des débats d'idées. Effectivement, le jour même du 9 novembre, il y a une grande fête à la porte de Brandenburg.
Vous avez aussi travaillé, je crois, en coopération avec les instituts français de Pologne et de République tchèque. Comment vous avez travaillé avec eux ?
Alors, notre approche, elle était vraiment européenne. On s'est dit, 89, c'est pas seulement le mur de Berlin, 89, c'est la révolution de velours à Prague, 89, c'est la table ronde en Pologne, Solidarność. Donc, on a travaillé avec les différents postes, les collègues de l'Institut de Varsovie et de Prague, pour réfléchir à donner, à entendre et à avoir une programmation qui permette de croiser les regards. Donc, on a invité des réalisateurs polonais, des réalisateurs tchèques à Berlin, des historiens allemands, des historiens français sont allés à Varsovie, vie. Donc en fait, on a essayé de proposer une programmation qui permette de comprendre comment tous ces mouvements d'opposition étaient liés au sein des pays du pacte de Varsovie.
Merci Dominique Treilloux. Je signale que RFI sera chez vous à l'Institut français de Berlin les 8 et 9 novembre pour une série d'émissions en direct et en public.
Les portraits de la